qui sont joyeux, mais nous pouvons aussi nous réjouir dans le Seigneur. Amen. Et notre Dieu, il est tellement grand, il est tellement extraordinaire. Ces derniers temps, je bénis le Seigneur, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus vers moi, qui m'ont téléphoné pour me dire comment le Seigneur est intervenu dans leur vie et comment le Seigneur a fait des miracles pour eux. Je suis ébloui. Et notre Seigneur, il est grand, il est merveilleux. Et notre frère ici aussi, hein, qui est là, notre frère Ben, hein, le Seigneur a répondu aussi à sa prière. Et le Seigneur répondra encore à d'autres prières. Et donc le Seigneur est grand. Aujourd'hui, j'aimerais parler des Pâques. Hein, vous savez, il y a plusieurs Pâques. La première Pâque, c'est la Pâque historique juive de l'Ancien Testament. Et on trouve cela dans, parmi les nombreux passages, il y a Exode. Donc on va lire ensemble ce passage, parce que notre Pâque aujourd'hui est basée aussi de cette première Pâque. Alors c'est Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part de chacun que chacun peut manger. » Verset 5, « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Il est écrit ici, je mettrai à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. J'aimerais vous dire que chaque fléau que l'Égypte avait connu, eh bien, c'était comme un dieu pour l'Égypte. Et Dieu a frappé, eh bien, ainsi pour humilier les dieux de l'Égypte, pour manifester qu'il est le véritable Dieu. Donc, je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je passerai. Pâques vient de Pessah, hébreu, un mot hébreu qui signifie passer. Hein? Passer au-dessus. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant pour une fête en l'honneur de l'Éternel. cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du premier au 7e jour sera exclue d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée, et le 7e jour aussi. On ne fera aucun travail ces jours-là, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous célébrerez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ce jour sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Le 14e jour du premier mois, le soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé sera exclue de l'assemblée d'Israël, qu'il s'agisse d'un étranger ou d'un Israélite. Vous ne mangerez pas de pain levé dans tous vos foyers, vous mangerez des pains sans levain. Amen. La première Pâque, donc, c'était lorsque Dieu, eh bien, a intervenu, donc, pour sauver les enfants d'Israël d'Égypte, pour les délivrer de l'esclavage d'Égypte. Pendant plus de 400 ans, eh bien, les Hébreux, eh bien, ont souffert. Et pendant des années, ils criaient à l'Éternel, « Seigneur, aie pitié de nous !» Ils se demandaient, « Quand est-ce qu'ils seraient délivrés ?» Et finalement, Dieu a entendu leurs cris, Dieu a entendu leurs soupirs, et Dieu donc leur a envoyé son serviteur Moïse pour les délivrer. Et vous savez que Moïse a eu beaucoup de difficultés. Il n'a pas été accepté tout d'abord par les siens, disant, mais qui es-tu toi pour être un libérateur? Et cependant, c'est l'Éternel qui l'avait choisi. Et Moïse s'est présenté devant Pharaon et avec son frère Aaron. Et on sait que Pharaon ne voulait pas laisser le peuple aller. Et Dieu a dû frapper l'Égypte par 10 plaies. Et ici, lorsque l'Éternel parle à Moïse, c'est la veille de l'envoi de la dernière plaie ou du dernier fléau, lorsque Dieu allait frapper les Égyptiens par leur premier-né, que ce soit premier-né des humains ou premier-né des animaux. Et donc Dieu a dit à Moïse ce jour-là, eh bien, ce jour-là, eh bien, c'est un jour spécial. Ce mois-ci sera le mois de Nissan, ce sera le premier mois de l'année. Et donc, et au 14e jour de ce mois, eh bien, vous allez fêter la Pâque. Et vous allez sacrifier un agneau. Et vous allez, eh bien, badigeonner les poteaux et le linteau des portes. Et lorsque l'ange de l'extermination passera, eh bien, quand il verra le sang, eh bien, il va épargner les Hébreux. Et donc, c'est ainsi que, eh bien, Dieu a institué cette Pâque, et il a dit, on vient de lire comment il a expliqué qu'il fallait faire, qu'il fallait manger des herbes amères, qu'il fallait manger du pain sans levain, pour exprimer la hâte avec laquelle ils sont partis d'Égypte. Donc voici. Donc la première Pâque, c'est Dieu qui délivre son peuple après plus de 400 ans d'esclavage. Il les a sortis de l'esclavage d'Égypte. Maintenant, nous arrivons à la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Donc, je viens de parler de la Pâque historique juive de l'Ancien Testament. Maintenant, passons à la Pâque chrétienne du Nouveau Testament. On va passer dans Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 1er, on va lire à partir du verset 29. Le lendemain, on va lire à partir du verset 26, comme ça vous comprenez un peu le contexte. Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé. Je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est celui à propos duquel j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il existait avant moi. » Jean-Baptiste a pointé du doigt disant, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jusqu'à maintenant, dans l'Ancien Testament, on faisait des sacrifices d'animaux, d'agneaux, de bœufs et de toutes sortes d'animaux. Mais lorsque le sang était coulé, c'était ce sang-là couvrait simplement le péché, mais n'enlevait pas le péché. Et donc, Jean-Baptiste ici dit, voici l'agneau de Dieu. Donc, tous les agneaux qu'on sacrifiait dans l'Ancien Testament n'étaient que la préfiguration du véritable agneau, eh bien, qui allait être sacrifié. Et Paul dira, en ce qui concerne Jésus, dans 1 Corinthiens 5, verset 7, la deuxième partie du verset, « En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. » Dans la version second tout court, second, il est dit, « Notre Christ est notre Pâque. » Ici, il est notre agneau pascal. Donc, l'agneau qui a été sacrifié à la première Pâque, c'était la préfiguration du véritable agneau qui allait être sacrifié pour le péché, non pas seulement d'Israël, mais le péché du monde entier. Car Dieu a tant aimé, pas seulement Israël, mais car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici la Pâque historique chrétienne de la Nouvelle Alliance. Christ, il est mort pour sauver non pas seulement un peuple, mais l'humanité. Tous ceux qui croient en lui seraient sauvés. Et maintenant, la première Pâque, c'était une délivrance d'esclavage, on peut dire, physique. Mais Christ, il est mort pour nous délivrer de l'esclavage spirituel. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Christ est venu nous délivrer du péché. Christ est venu nous délivrer du chantage du diable. Hein, vous savez, lorsque on est dans les ténèbres, le diable peut nous faire chanter. Je me rappelle toujours cette histoire qu'on raconte au sujet de Martin Luther, lorsque un jour il priait, et alors Satan est venu vers lui disant, tu n'es qu'un hypocrite, tu te rappelles le grand pécheur que tu étais. Il dit, oui, j'étais un grand pécheur, mais Christ m'a sauvé. Christ m'a nettoyé. Amen. Et alors, Christ a effacé mon péché, mon passé. Et donc, voilà, c'est la Pâque historique chrétienne, c'est que Christ, il est mort non pas seulement pour un peuple, mais il est mort pour le monde entier et il est venu nous délivrer de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable, et il est vraiment venu nous donner la vie éternelle. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Paul dit, maintenant il n'y a plus ni juif ni grec. Christ a brisé le mur de séparation qui nous séparait avec Dieu, et il a brisé le mur de séparation qui nous séparait les uns des autres. Voici donc cette Pâque historique, que Christ est l'agneau de Dieu. Et c'est pourquoi ce sacrifice, il a été accompli une fois pour toutes. Pour être sauvé, on n'a pas besoin de se réincarner à une autre créature. Vous savez, il y a certaines religions orientales qui enseignent que, il faut se purifier, il faut passer par toutes sortes de réincarnations pour arriver à une certaine perfection. Mais non, Christ nous purifie une fois pour toutes. Amen. Il a donné son sang pour nous. C'est un sang précieux qui nous lave. Donc voici la Pâque historique du Nouveau Testament. Il y a aussi la Pâque annuelle, commémorant ce sacrifice suprême. Pâque, c'est pas la fête des chocolats. c'est pas les chocolats, c'est pas les œufs non plus. Mais Pâque, c'est la célébration de la résurrection de Christ. Sa victoire sur la mort. Sa victoire sur le diable. Et ça, il faut le claironner, il faut le dire partout. Pâques, c'est la commémoration de la résurrection de Christ. Nous servons un Dieu vivant. Nous ne servons pas du bois ou du métal, mais nous servons un Dieu qui entend, qui voit et qui agit. C'est ça, Pâques. C'est la célébration de Christ qui est mort, mais qui est aussi ressuscité. Et c'est pour ça, dans les églises protestantes, la croix que nous avons, c'est une croix nue. C'est-à-dire, Christ n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité. Il est vivant. Et dans toute la religion qui existe au monde, il n'y a aucun fondateur qui existe encore, seulement Jésus. Son tombeau est vide. Et son tombeau est encore, on peut le vérifier encore en Israël, hein? Le tombeau est vide. Il n'y est pas resté. Donc ça, c'est la Pâque annuelle. Et donc, comment est-ce qu'on a établi la fête de la Pâque, la date, en fait, le jour, si on peut dire, de Pâques. On est quelle date aujourd'hui? 16 avril. Le 16 avril, c'est l'une des dates où Pâques tombe le plus souvent. Depuis l'adoption de notre calendrier grégorien, si on peut dire depuis 1582, si on veut aller jusqu'à 2282, eh bien on va voir que Pâques tombera au moins 30 fois. 30 fois le 16 avril. Alors, j'explique comment la date de Pâques est déterminée. Hein, c'est l'une des fêtes qu'on appelle fêtes mobiles, hein, dans le christianisme. En fait, on a décidé que Noël serait le 25 décembre, hein, donc ça ne change pas. Mais Pâques, ça change chaque année. Alors, la date de Pâques a été fixée après trois siècles de controverses, par le concile de Nicée en 325. Et on a établi cette règle qui dit que Pâques est le dimanche qui suit le 14e jour de la lune. C'est pour ça que j'ai insisté 14e à chaque fois qu'on lisait la première Pâques. Pâques est le dimanche qui suit le 14e jour de la lune, c'est-à-dire la pleine lune, qui atteint cet âge au 21 mars, qui a été fixé comme l'équinoxe du printemps. Donc, Pâques est le dimanche qui suit le 14e jour de la lune, qui atteint cet âge au 21 mars, ou immédiatement après. Ce qui veut dire que d'après cette règle, Pâques peut donc tomber du 22 mars au 25 avril inclus. Donc, il ne peut pas y avoir de Pâques 21 mars, 20 mars, non. Le plus tôt que ça peut tomber, c'est le 22 mars. Et le plus tard que ça peut tomber, c'est le 25 avril. Et entre le 22 mars et le 25 avril, il y a 35 positions possibles. 35 positions possibles. Et donc, les dates où Pâques tombe le plus souvent, c'est le 30 avril, le 16 avril, une trentaine de fois. Et ensuite, 31 mars, 5 avril, 11 avril. Et les seules fois où Pâques tombe le 24 mars, c'était en 1799 et en 1940. Qui est-ce qui était là? Donc, 24 mars, c'était le 1799 et 1940. Donc, ça veut dire que Pâques tombe au printemps. Hein? Et alors, vous savez qu'il y a une différence entre Pâques, comme je pourrais appeler Pâques protestante et Pâques orthodoxe. Ça vient du fait que nous adoptons le calendrier qu'on appelle grégorien, et les orthodoxes adoptent le calendrier, l'ancien calendrier qu'on utilisait jusqu'en 1582, qu'on appelle le calendrier julien. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette petite différence. Et notre Pâque a été calquée, comme je viens de l'expliquer, sur la Pâque juive. Et donc il y a des années où donc les Pâques protestantes, Pâques orthodoxes et Pâques juives tombent plus ou moins la même période. Mais c'est rare, ça arrive à peu près tous les 4 ans. Donc la Pâque annuelle que nous célébrons, nous nous rappelons que Christ est ressuscité, c'est le printemps, hein, c'est la lumière. Et ensuite, il y a la Pâque mensuelle ou hebdomadaire. C'est ce que nous venons de célébrer là, tout de suite. Où nous nous rappelons, ici, chaque semaine, de ce que Christ a fait pour nous. Hein? Et ce que nous venons de faire, c'est Christ lui-même qui nous le demande. Je vais juste prendre un exemple de passage dans Matthieu 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Extraordinaire. Après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Donc, dans ce passage, Jésus lui-même, il a institué donc la Sainte Cène. La Sainte Cène, c'était la même période pascale. Il voulait montrer qu'il est vraiment l'agneau pascal. Et donc, Jésus nous dit, eh bien, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que nous célébrons la Sainte Cène, eh bien, nous nous souvenons que Jésus, il est mort et il est ressuscité et qu'il est mort pour nos péchés. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est fondamental à notre foi que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Christ est mort pour nous et qu'il est ressuscité. Amen. Donc on doit sans cesse se le rappeler. Parfois on peut aller dans des complications, sans cesse se rappeler l'essentiel, que Christ est mort pour nous. La croix, c'est au centre, c'est le centre de notre message. La croix et aussi la résurrection. C'est ça la bonne nouvelle. Christ est ressuscité. C'était le message des apôtres, des disciples. Christ est ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire? Christ est ressuscité. Si Christ est ressuscité, eh bien moi aussi je ressusciterai. Parce qu'il est les prémices de ceux qui sont ressuscités. Si Christ est ressuscité, ça veut dire que sa parole est vraie. Je peux lui faire confiance. Parce qu'il a dit qu'il ressusciterait. Et il est ressuscité. Ça veut dire que tout ce qu'il a enseigné est vrai. Je peux lui faire confiance. La bonne nouvelle, Christ est ressuscité. Et Jésus dit, celui qui croit en moi, vivrait même quand il serait mort. C'est pour ça que nous ne sommes pas sans espérance. Nous avons une espérance. Donc, d'où j'arrive à mon point ici, la Pâque quotidienne. Nous vivons par la puissance de la résurrection de Christ. C'est cette puissance de la résurrection, eh bien, qui nous donne la victoire dans tous nos combats. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous sommes plus que vainqueurs parce que Christ est ressuscité. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Parce que Christ est ressuscité, j'ai cette confiance que quels que soient les combats, Dieu me donnera la victoire. J'ai cette confiance que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si aujourd'hui je ne comprends pas, mais je sais que Dieu a un plan à travers toutes choses. Et que c'est son plan qui va triompher. Et rira bien qui rira le dernier, comme dit La Fontaine. Mes ennemis peuvent rigoler aujourd'hui, mais je sais que la victoire est garantie. Ma victoire est garantie. C'est ça la Pâque quotidienne. Christ est avec moi. Emmanuel, Dieu avec nous. Parce que c'est un Dieu vivant. C'est pas un Dieu mort. Il est là avec moi. Donc le Christ ressuscité, il est là avec moi. On discute de savoir est-ce que Christ est vraiment ressuscité, etc. Et je me rappelle cette dame qui a fait ce chant. Et c'était dans les années 60, il y a des gens qui parlaient de cette théorie « Dieu est mort ». Et cette dame a fait un chant gospel. Il dit « Comment pouvez-vous dire que Dieu est mort ? Je lui ai parlé ce matin. » Est-ce que Christ est ressuscité? Je sais, parce qu'il vit en moi. J'ai la preuve, il vit en moi. C'est lui qui me soutient. Et Jésus avait dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un autre consolateur, un autre de la même nature que moi. Il vous enseignera, il vous conduira dans toute la vérité. Il sera avec vous, il sera en vous. Il va vous guider, il va vous conduire, il va vous donner la victoire. Donc Christ est avec nous, c'est la Pâque quotidienne. Christ est vivant, il est avec moi, il me donne la victoire. Et lorsque vous serez persécutés et qu'on vous traînera au tribunal, Christ dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Je mettrai sur votre bouche à ce moment-là les paroles qu'il faut. Donc ça c'est la Pâque quotidienne. Christ est avec nous. C'est par la puissance de la résurrection qu'il nous guérit aujourd'hui, qu'il nous donne la victoire sur l'ennemi. Il y a la Pâque, donc je dis, il y a la Pâque historique juive de l'Ancien Testament, il y a la Pâque historique chrétienne du Nouveau Testament, il y a la Pâque annuelle que nous commémorons, eh bien, je viens de l'expliquer le premier dimanche qui suit la pleine lune. Il y a la Pâque mensuelle ou hebdomadaire que nous célébrons chaque fois que nous nous réunissons ensemble. Il y a la Pâque quotidienne. Mais il y a aussi une autre Pâque. C'est la Pâque eschatologique. Où il y aura la délivrance ultime. Et pour cela, j'aimerais lire avec vous un passage dans l'Apocalypse où on va parler encore de l'agneau. Apocalypse, chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à cette sceau. Donc il faut savoir qu'à l'époque, quand on parle de livres, hein, c'était des rouleaux. Hein. Alors voilà, c'était des rouleaux. Okay? Donc par exemple, ici, ce rouleau, on peut dire que c'est écrit à l'intérieur. Hein? C'est écrit à l'intérieur. Donc le rouleau était ainsi. Mais sauf que le rouleau dont il est question ici, c'était écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc je pense que c'était bien roulé ainsi. Alors pour empêcher qu'on déroule, qu'on le lise, il y avait sept sceaux. On a mis sept sceaux. Et personne ne pouvait ouvrir. Ok?
Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à sept sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamant d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni même le regarder. Je pleurais beaucoup. Ici, c'est Jean qui parle. Hein? Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des quatre vivants et au milieu des anciens un agneau debout, comme offert en sacrifice. » Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Nos prières sont des parfums. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Vous voyez, c'est à ça que nous sommes destinés, à être des rois et des prêtres. « Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis crier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient, Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Donc l'agneau de Dieu, l'agneau, eh bien, c'est lui qui est digne d'ouvrir le livre qui sera ouvert. Mais il faut remarquer aussi qu'on parle d'agneau, mais en même temps on parle d'une autre créature. Au verset 5, il dit, « Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, eh bien cet agneau, celui qui était mort en agneau se révélera plus tard comme le lion. Il a accepté de mourir en agneau, mais il deviendra aussi le lion de la tribu de Juda. Dans la Bible, il est dit que Satan rôde comme un lion dévorant. Donc Satan, il rôde comme un lion. Il fait du bruit comme un lion, mais il n'est pas le lion. Le lion, c'est notre Seigneur Jésus, le lion de la tribu de Juda. Et donc, ici, la parole dont je veux parler ici, c'est l'aboutissement final de tout ce que Christ a fait pour nous. Donc, ce jour-là, nous vivrons pleinement tout ce que Christ a fait pour nous. L'apôtre Paul dit que aujourd'hui nous voyons comme au travers d'un miroir. Mais le jour viendra, eh bien je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc le jour viendra où nous verrons Dieu face à face. Où nous le verrons face à face. Et où nous serons aussi ressuscités. Et le corps que nous aurons, ce ne sera pas ce corps fatigué, malade, infirme, on est obligé de porter des lunettes. Non, mais ce sera encore glorieux. Lorsque Jésus était ressuscité, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il pouvait entrer dans une pièce sans même qu'on ouvre la porte. Hein, imaginez, on entre sans même frapper. Voilà, ce sera encore glorieux. Et donc, là, ce sera vraiment la Pâque eschatologique où nous vivrons pleinement cette victoire que Christ a accomplie pour nous. Et ce sera comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 15. Donc je pense que c'est bien de le lire. 1 Corinthiens 15. verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Amen. Donc, cette Pâque que nous célébrons chaque année ou chaque semaine ou même chaque jour, il y a une Pâque qu'on va célébrer et là ce sera vraiment l'aboutissement final, glorieux. Et là, aujourd'hui, nous avons la victoire sur Satan, mais il rôde encore autour de nous. Mais le jour viendra où on se demandera où est-ce qu'il est. Il ne sera plus là. Il ne sera plus là. Il n'y aura plus même les tentations. On sera débarrassé de la présence du péché, de la présence du diable. Et là, ce sera merveilleux. Et l'agneau, il va, comment est-ce que je pourrais dire, il va briser le sceau et il va ouvrir le livre. Et qu'est-ce qui est écrit dans ce livre? Ça, je ne sais pas. Il y aura sûrement beaucoup de belles surprises pour les enfants de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de surprises. Dieu fait de bonnes surprises à ses enfants. Et je peux vous dire que vraiment, le Seigneur nous réserve de très belles surprises. Et c'est pour ça que Paul nous dit ici, eh bien, soyez fermes. Inébranlable, restez dans le Seigneur. Ne vous laissez pas troubler par les circonstances de la vie. Ne vous laissez pas troubler par les persécutions, les incompréhensions, les moqueries, etc. Donc demeurez ferme, car notre Christ, il a déjà montré qu'il a le pouvoir sur le diable, qu'il a le pouvoir sur l'adversaire. Et le pasteur a parlé de banquet. Et le Seigneur nous réserve un banquet. C'est un banquet formidable. Et comme je le dis souvent, ce banquet-là, après, on n'aura pas à faire la vaisselle. Il n'y aura pas de vaisselle à faire. On n'a pas à s'inquiéter. Hein? Dans ma langue natale, il y a un proverbe qui dit, donc, oui, on dit après danse le tambour l'eau. Après la danse, le tambour hein, est l'eau. Donc après la fête, il faut tout ranger, il faut tout. Non, mais cette fête-là qu'on aura avec le Seigneur, il n'y aura plus rien à ranger. Hein. Il n'y aura pas de vaisselle à faire. Et ce sera une célébration extraordinaire. Notre Dieu est grand, n'est-ce pas? Il est grand. Et donc, le message aujourd'hui, c'est pour vous encourager à demeurer ferme. Inébranlable, parce que notre Seigneur Jésus, il est vivant, il est là avec nous chaque jour, pour nous aider et pour nous conduire à notre destinée, qui est le ciel. Et là, lorsqu'on sera dans la présence du Seigneur, on ne sera plus troublé, tourmenté par le diable, avec ses simagrées, etc. Mais nous serons dans la joie totale, complète. Et imaginez être dans la présence du Seigneur. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire de se trouver dans la présence du Seigneur. Seulement se trouver dans la présence du Seigneur, il y aura une joie indicible. Hein? Être dans la présence de celui qui a donné sa vie pour toi à la croix. Extraordinaire, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu es mort pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Rien. On n'a rien fait de bon. Paul dit, alors que quelqu'un mourrait pour quelqu'un de bien, mais Christ est mort pour des impies. C'est un amour extraordinaire. Donc, peu importe ce que tu passes aujourd'hui, le Seigneur t'aime et il va te donner la victoire. Il y a deux témoignages qui m'ont bouleversé, en fait, qui m'ont encouragé cette semaine. En fait, c'est un témoignage que j'ai écouté déjà plusieurs fois. Et il y a ce pasteur qui est allé à l'ONU pour témoigner, c'est extraordinaire. Hein? Il a témoigné devant Ban Ki-moon et autres. Ce pasteur, il était, je crois, en Australie, et il a eu une crise cardiaque. Il a été, il est resté inanimé, je pense 48 heures, quelque chose de ce genre. Et on a essayé de le réanimer, etc. Rien, on le transportait à l'hôpital, on a fait toutes sortes de choses. Et puis à un moment donné, il est revenu à la vie. Et tous les autres étaient surpris que, normalement, après 15 minutes, si tu ne respires plus, c'est fini, quoi. Et il est revenu à la vie. Et, extraordinaire. Mais le problème, c'est que dans sa famille, il y a un problème héréditaire que tous les gens de la famille peuvent connaître cette crise cardiaque. Et alors, après un certain temps, cette personne est retournée à l'hôpital pour faire des examens. Et les médecins l'ont examiné. Ils ont dit, mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé. En fait, après cette expérience que tu as vécue, cette expérience de résurrection en quelque sorte, eh bien, ton ADN a été changé. Dieu a changé l'ADN de cette personne. Or, notre ADN, c'est notre identité. Ce que tu hérites de tes parents, tu l'hérites. Hein? Mais Dieu a modifié son ADN. Et de sorte que, donc, connaître ce genre de choses n'est plus possible, parce que Dieu a changé son ADN. Et par la même occasion, s'il devait avoir des enfants par la suite, donc c'est plus possible non plus parce que Dieu a changé son ADN. Donc voici ce que notre Dieu est capable de faire. Extraordinaire. Et hier, j'ai regardé un film. C'est un film chrétien. Et c'est une petite fille qui est tombée malade et qui n'arrivait plus à aller aux toilettes. Et donc, imaginez, cette fille, eh bien, elle a commencé à avoir un gros ventre. Hein. Imaginez une petite fille comme une femme enceinte. Cette mère a tout fait pour essayer pour la guérison de cette fille. Parce que je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais à la fin, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, cette fille a eu un accident. Elle est tombée d'un arbre. Et après ça, et donc quand elle est tombée de l'arbre, les parents étaient inquiets, tout ça. Et puis, un jour après ou quelques jours après, les parents observent la fille. Cette fille qui devait prendre des médicaments toutes les heures, elle ne prenait plus les médicaments. Et puis la mère était surprise de voir, oh, son gros ventre avait disparu. Et alors après, la fille explique qu'après son accident, eh bien, elle avait comme perdu connaissance et elle a vu Jésus. Et en revenant à elle, elle savait qu'elle était guérie. Et le Seigneur l'avait complètement guérie. Et quand on est retourné vers les médecins pour faire les examens pour la fille, il faut dire que cette maladie-là est tellement rare, il n'y avait qu'un seul médecin à Boston. C'est un médecin mexicain qui vivait à Boston qui suivait cette fille. Et quand le médecin a examiné le dossier de la fille, il était surpris. Il a dit, mais la trace de la maladie a complètement disparu. Donc on peut dire, c'est pas seulement le fait qu'elle est tombée, qui a déclenché quelque chose, mais le Seigneur avait fait une opération dans cette fille et elle était totalement guérie. Donc voici le Dieu que nous servons. Donc je vous raconte ces deux histoires pour dire que notre Dieu, c'est le Dieu de résurrection. C'est le Dieu de résurrection et je vous encourage aujourd'hui, peu importe les difficultés auxquelles que vous pouvez connaître, Dieu est là et il est capable d'opérer encore son miracle aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prions le Seigneur.